Chapitre 8 et dernier. En ce temps-là, lorsque dans les jardins du lycée, je fleurissais insouciant, lorsque je lisais avidement Apulée et ne lisais point du tout Cicéron, en ce temps-là, dans les vallons mystérieux, aux cris printaniers des cygnes, près des eaux silencieuses et étincelantes, la muse m'apparut pour la première fois. Ma cellule d'étudiant fut illuminée. La muse y servit son premier festin. Elle se mit à chanter les amusements de l'enfance, les gloires de notre histoire passée et les rêves encore vagues de mon cœur. Le monde l'accueillit d'un sourire. Notre premier succès nous donna des ailes. Lui-même, le vieux Derjavin, nous remarqua et au moment de descendre dans la tombe, nous laissa sa bénédiction. Ne prenant pour loi que le seul caprice des passions et ne rougissant point de partager les sentiments de la foule, j'amenai ma muse étourdie dans le tumulte et des orgies nocturnes et des querelles insensées. Elle apportait ses dons venus du ciel dans les festins en démence. Elle s'agitait comme une bacchante et chantait pour les convives la coupe à la main. Les jeunes hommes de ce temps-là lui faisaient une cour insolente. Et moi, je me glorifiais avec mes amis de ma compagne échevelée. Mais j'eus bientôt assez de leur alliance. Je m'enfuis au loin. Elle me suivit. Que de fois cette muse caressante ne m'aplanit-elle pas mon chemin solitaire par la magie d'un récit intérieur? Que de fois sur les rochers du Caucase, elle galopait avec moi comme l'énore au rayon de la lune. Que de fois, sur les rivages de la Tauride, elle m'a conduit à travers l'obscurité nocturne pour me faire écouter le bruit de la mer, le murmure incessant de la Néréide, ce cœur profond et éternel des flots immenses qui s'élèvent vers le Père des mondes en hymne de glorification. Puis, oubliant les fêtes et l'éclat de la capitale éloignée, elle visita en ma compagnie les humbles tentes des races errantes dans les déserts de la triste Moldavie. Parmi ces races, elle devint sauvage, elle oublia la langue des dieux pour des idiomes pauvres et bizarres, pour les rudes chansons de la steppe dont elle s'était éprise. Soudain, tout change autour d'elle. La voilà au milieu de mon jardin, en demoiselle de province, une rêverie mélancolique dans les yeux, un livre français dans les mains. Et maintenant, je mène pour la première fois ma muse dans un raout du grand monde. Je contemple avec une timidité jalouse ses attraits de la steppe. Elle se glisse modestement à travers les rangs pressés des grands seigneurs, des militaires élégants, des diplomates, des dames de haut parage. Et de son coin, elle regarde étonnée l'apparition successive des invités devant la jeune maîtresse de maison, les bigarrures de costumes et des conversations, le cadre sombre des hommes qui entourent les dames comme une bordure de tableau. L'ordre immuable de ces assemblées oligarchiques, la froideur de l'orgueil assuré, tout ce mélange de rangs et d'âges, la frappe sans lui déplaire. Mais sur qui se tient là dans cette foule choisie, silencieuse et sauvage? Il paraît étranger à tous et les figures passent devant lui comme une file de fantômes insipides. Qu'y a-t-il sur son visage? L'ennui ou l'orgueil déçu? Pourquoi est-il ici? Qui est-il enfin? Serait-ce Onéguin? C'est lui en effet. Mais depuis quand le flot l'a-t-il apporté? Est-il toujours le même ou s'est-il calmé? Où se donne-t-il toujours les airs d'un original? Quel rôle va-t-il jouer maintenant devant nous? Sera-t-il misanthrope, cosmopolite, patriote, quaker, dévot? Ou mettra-t-il quelque autre masque? Ou bien sera-t-il tout simplement un bon enfant, comme vous, comme moi, comme tout le monde? Je le lui conseillerais, car il a déjà suffisamment mystifié le monde. Le connaissez-vous, lecteur? Oui et non. Vous ne le connaissez pas. Pourquoi donc parlez-vous de lui avec tant de malveillance? Est-ce parce que vous avez la manie d'être juge et de prononcer un jugement? Parce que l'imprudence des âmes ardentes paraît blessante ou ridicule à la vanité amoureuse d'elle-même? Parce que l'esprit qui aime le large met les autres à l'étroit? Parce que nous prenons trop souvent des paroles pour des actions? Parce que la méchanceté n'est pas moins étourdie que méchante? Parce que, pour les gens importants, les niaiseries seules sont importantes? Parce qu'enfin, la médiocrité seule nous vient à l'épaule et nous offusque pas? Heureux celui qui a été jeune dans sa jeunesse, qui a mûri au temps de la maturité, qui a su résister au refroidissement progressif qu'apporte la vie, qui ne s'est jamais abandonné à des rêves étranges, qui n'a jamais fui la plèbe des salons, qui à 20 ans était un élégant et un brave et qui à 30 ans avait fait un beau mariage, qui à 50 s'était délivré des dettes hypothécaires et autres, et qui sont tout revenus et sans se hâter avait acquis argent, titres et gloire, duquel on a dit toute sa vie « N.N. est un parfum galant homme ». Oui, mais il est triste de penser que la jeunesse nous a été donnée en vain, que trompée à chaque pas, elle nous a trompés nous-mêmes, que nos plus nobles désirs, que nos rêves les plus généreux ont été corrompus aussi soudainement que les feuilles des arbres l'ont été au souffle de l'automne. Il est insupportable pour un homme de ne voir devant lui qu'une longue file de dîners, de ne plus considérer la vie que comme une cérémonie à effectuer, et de marcher sur les traces de la foule disciplinée, sans partager avec elle ni aucune de ses opinions, ni aucune de ses passions. Quand on est devenu l'objet d'appréciations opposées et bruyantes, il est insupportable pour un homme de cœur, convenez-en, de passer parmi les gens sensés pour un soi-disant original, un triste fou, même un monstre satanique, un démon. Non, mais c'est assez. Revenons à Onéguine. Après avoir tué en duel son ami, arrivé à l'âge de 28 ans, sans avoir rien fait, sans s'être rien proposé de faire, fatigué de son inactivité, n'ayant ni emploi ni femme, il avait fini par ne plus savoir de quoi occuper ses instants. Une sourde inquiétude, un désir constant de changer de place, s'était emparée de lui. C'est une croix volontaire que s'imposent bien des gens. Il quitta son village, la solitude des champs et des bois, où semblait chaque jour lui apparaître une ombre sanglante. Et il se mit à errer à travers le monde, sans aucune pensée, mais toujours plein du même sentiment d'inquiétude. Les voyages aussi finirent par l'ennuyer, comme tout le reste, et pareil à Tchatsky, il tomba d'un vaisseau dans un bal. Mais voici que la foule s'ébranle. Un murmure parcourt la salle. Une dame s'approchait de la maîtresse de la maison, suivie d'un général qui paraissait un personnage important. Elle n'était ni flatteuse, ni hautaine, ni bavarde. Point de regard provoquant pour tout le monde. Point de prétention au succès, point de grimaces, ni d'airs affectés. Tout en elle était calme et simple. Elle semblait une image parfaite du « comme il faut ». Pardonne-moi, Plefnev, je ne sais pas comment traduire. Les jeunes dames s'efforçaient d'approcher d'elle, les vieilles lui souriaient amicalement. Les messieurs la saluaient plus profondément que tout autre et tâchaient d'attirer un de ses regards. Les demoiselles passaient plus modestement devant elle, tandis que le général qui l'avait accompagné levait plus haut que personne les épaules et le nez. Nul ne leur aurait nommé une beauté, mais aussi nul n'aurait trouvé en elle, de la tête aux pieds, rien de ce que dans le grand monde de Londres on nomme vulgaire. C'est comme un fait exprès. Voilà encore un mot que je ne puis traduire, vulgaire. Celui-ci est nouveau chez nous, et je ne crois pas que la signification qu'on lui donne y ait jamais cours. Si je faisais une épigramme, bon, revenons à la nouvelle arrivée. Belle de son charme insouciant, elle était assise à côté de la brillante Nina Volskaya, cette Cléopâtre de la Neva, et vous seriez convenus avec moi que, si éclatante qu'elle fût, Nina ne pouvait éclipser sa voisine par sa beauté de marbre. « Est-ce possible ?» pense Onéguine. « Serait-ce elle ? Non, mais pourtant, quoi, de ce village perdu dans les steppes ?» Et il dirige incessamment son lorgnon curieux sur celle dont la vue a confusément rappelé les traits presque oubliés. « Dis-moi, prince, ne sais-tu pas qui est cette personne en béret rouge qui cause avec l'ambassadeur d'Espagne ?» Le prince regarde Onéguine avec un sourire. « Hé, hé, on voit bien qu'il y a longtemps que tu es absent du monde. Attends, je vais te présenter. » « Mais qui donc est-elle ? Ma femme ? Tu es marié ? Oh, je ne savais pas, y a-t-il longtemps ? Près de 2 ans. Avec qui ? Avec mademoiselle Larine. Tatiana ? Tu la connais donc ? Oui, je suis son voisin de campagne. Alors viens. » Le prince s'approche de sa femme et lui présente son parent et ami. La princesse regarda Onéguine, et fut-elle étonnée, troublée ? Rien de ce qui se passa dans son âme ne se trahit. Le son de sa voix resta le même. Son salut fut également affable et gracieux. Parole d'honneur, non seulement elle ne frémit pas, ne devint ni pâle ni rouge, mais son sourcil même ne fit aucun mouvement et sa lèvre ne se serra point. Avec quelque attention que l'observa Onéguine, il ne put trouver trace de la Tatiana d'autrefois. Il voulut entamer une causerie avec elle et n'en put venir à bout. Elle lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était de retour, d'où il revenait, et si ce n'était pas de leur pays. Puis elle tourna vers son mari en regard fatigué, se glissa dehors et laissa Onéguine stupéfait. Et quoi ? Cette même Tatiana, à laquelle, voyez les premiers chapitres de notre roman, dans une contrée perdue, il avait lu, dans un accès d'ardeur moralisante, un si beau sermon. Cette Tatiana dont il garde une lettre où le cœur parle, où tout est abandon et confiance. Cette petite fille, est-ce un rêve ? Cette petite fille qu'il a méprisée dans son humble condition, est-ce bien elle qui vient de le traiter avec tant d'indifférence et de sans-gêne ? Il quitte le raout étouffant et rentre pensif à la maison. Des rêves tristes et charmants troublent son sommeil tardif. Il se réveille, on lui apporte une lettre. Le prince N a l'honneur de l'inviter à la soirée qu'il donne. Oh, grand Dieu, chez elle ! Oh, j'y serai, j'y serai ! Et aussitôt, il griffonne une réponse polie. Qu'a-t-il ? Qu'est-ce qui a remué dans le fond de son âme paresseuse et froide ? Est-ce le dépit, la vanité, ou de nouveau le tyran de la jeunesse, l'amour ? Onéguine compte encore les heures. Il ne peut encore attendre la fin de la journée. Mais 10 heures sonnent. Il s'élance, il part. Le voilà devant le perron. Il entre en frissonnant chez la princesse, et pendant quelques instants, il se trouve seul, assis face à face. Les paroles ne peuvent sortir des lèvres d'Onéguine. Farouche, maladroit, à peine lui répond-il. Sa tête est remplie d'une pensée obstinée, il regarde obstinément. Quant à elle, elle reste tranquille, assise et libre. Le mari vient, il interrompt ce pénible tête-à-tête. Il rappelle à Onieguin les amusements et les traits de la jeunesse des années passées. Ils rient tous deux. Les visites arrivent. Voici que la conversation commence à s'épicer du sel mordant de la malignité mondaine. Un léger babil s'établit autour de la dame du logis. Dépourvu de sotte minauderie, il était maintes fois interrompu par une discussion sensée où l'on ne trouvait ni thème rebattu, ni prétendues vérités éternelles, ni pédantisme, où rien n'effrayait nulle oreille par une trop libre allure. Il y avait pourtant la fine fleur de la capitale, et les grands seigneurs et les modèles de la mode et ces figures qu'on rencontre partout, ces sauts inévitables. Il y avait là des dames avancées en âge, avec une physionomie méchante sous des bonnets de rose. Il y avait aussi quelques jeunes filles, visage qui ne sourit jamais. Il y avait aussi un ambassadeur parlant avec aplomb des affaires d'État, et un vieillard aux cheveux blancs et parfumés, lequel plaisantait à la vieille mode avec une délicatesse excessive qui paraîtrait aujourd'hui ridicule. Il y avait encore un monsieur tout farci d'épigrammes et mécontent de tout. Du thé que l'on offrait qui était trop sucré, de la nullité des dames, des manières des hommes, du bruit que faisait un roman ténébreux, du chiffre que l'on venait de donner à deux sœurs, des mensonges, des journaux, de la guerre, de la neige et de sa femme. Il y avait de plus X, qui s'était fait une célébrité par la bassesse de son âme et qui avait émoussé tes crayons dans tous tes albums au Saint-Priest. Un dictateur de bal se tenait appuyé contre la porte en figurine de mode, rouge comme un chérubin dans les palmes du dimanche des rameaux, tiré à quatre épingles, immobile et muet. Tandis qu'un voyageur venu de loin, insolent, roide, empesé, excitait le sourire des invités par son maintien plein de suffisance et un regard échangé en silence portait sur lui un jugement général. Mais Onéguine, durant pour toute la soirée, ne fut occupé que de la seule Tatiana. Non pas de cette petite fille timide, simple, amoureuse, mais de la hautaine princesse, de l'inabordable divinité des rives de la Neva. Ô homme, vous êtes tous semblables à notre grand-mère Ève. Ce qui vous est donné ne vous attire pas. Un serpent vous appelle à lui sans relâche à l'arbre mystérieux. Il faut qu'on vous donne le fruit défendu, sinon le paradis n'est plus le paradis. Oh, que Tatiana est changée! Comme elle est fermement entrée dans son rôle! Comme elle a rapidement pris les allures du rang dominateur! Quoi, c'est de cette indifférente et fière reine des salons qu'il a fait battre le cœur? C'est à lui que, dans le silence de la nuit, avant l'heure du sommeil, elle adressait ses pensées virginales. C'est avec lui que, soulevant vers la lune ses regards émus, elle rêvait d'achever un jour le modeste chemin de sa vie. Tous les âges sont soumis à l'amour, mais aux cœurs jeunes et purs, ses agitations sont bienfaisantes comme au chant les orages printaniers. Sous la pluie des passions, ils se rafraîchissent, se renouvellent, mûrissent, et la vie, ainsi fortifiée, donne une floraison splendide et des fruits exquis. Mais dans l'âge tardif et qui ne veut plus germer, au déclin de nos années, tristes et mortes sont les traces de la passion. Ainsi les tempêtes du froid automne changent les prairies en marais et achèvent de dépouiller les bois. Plus de doute, hélas ! Onéguin s'était pris de Tatiana comme un enfant. Il passe les nuits et les jours dans les perplexités d'une méditation amoureuse. sans écouter les sévères remontrances de sa raison, il se fait conduire chaque jour au vestibule vitré de l'hôtel qu'elle habite. Il la poursuit comme son ombre. Il se tient pour heureux, s'il peut lui jeter sur les épaules le duvet d'un boa, s'il effleure sa main, s'il relève son mouchoir, s'il s'écarte devant elle la foule bigarrée des laquais. Quoi qu'il fasse, mourût-il, elle ne le remarque point. Elle le reçoit librement à la maison, et si elle le rencontre dans le monde, elle lui adresse deux ou trois paroles, quelquefois un simple salut, quelquefois elle ne l'aperçoit pas même. Il n'y a pas en elle une goutte de coquetterie. Le très grand monde n'en saurait admettre. Onéguine commence à pâlir. « Ou elle ne me voit pas, dit-il, ou elle m'a nulle pitié. » Onéguine maigrit. Il menace de devenir phtisique. Tous ses amis en cœur l'envoient au médecin, et tous les médecins en cœur l'envoient prendre les eaux. Mais il ne part pas. Il aimerait mieux écrire à ses ancêtres de l'attendre là-haut. Cela ne touche point Tatiana, le texte est sec, c'est ainsi fait. Lui s'obstine, ne veut point quitter la patrie, il espère, il s'agite. Enfin, tout malade qu'il est, et plus hardi qu'un homme bien portant, il écrit d'une main faible à la princesse une lettre passionnée. Bien qu'il attribuât, et avec raison, peu d'influence aux lettres, cependant il paraît que la souffrance était devenue plus forte que lui. Voici sa lettre mot à mot. Je prévois tout. Dévoiler ce triste secret sera vous offenser. Quel amer mépris exprimera votre fier regard. Qu'est-ce que je veux ? Dans quelle intention vais-je vous ouvrir mon âme ? À quelle cruelle gaieté vais-je peut-être donner cours ? Quand je vous ai rencontré par hasard, je ne sais où, quand j'ai cru remarquer en vous une étincelle de tendresse, je n'osais pas y croire. Je ne donnais point carrière à la douce habitude qui allait s'établir. Je ne voulus point perdre une liberté qui me pesait pourtant. Autre chose encore nous sépara, l'Ence qui tomba, victime infortunée. Alors, j'arrachai mon cœur à tout ce qui lui était cher. Étranger à tous, dégagé de tout lien, je crus que la liberté et le repos remplaceraient le bonheur. Grand Dieu, comme je me suis trompé, combien je suis puni. Non. Vous voir à chaque instant, vous suivre partout, saisir avec des regards amoureux le sourire de vos lèvres et chaque mouvement de vos yeux, vous écouter longtemps, pénétrer son âme de vos perfections, pâlir, s'éteindre, se mourir devant vous, voilà le bonheur. Et j'en suis privé. Je me traîne partout au hasard pour vous rencontrer. Chaque jour, chaque heure m'est un précieux reste de vie et je dissipe dans un ennui dévorant mes jours déjà comptés. Je le répète, ma vie est déjà mesurée, mais pour qu'elle se prolonge, je dois être assuré chaque matin que je vous verrai dans le cours de la journée. Je crains, dans mon humble supplication, votre regard sévère pourrait découvrir les artifices d'une ruse misérable. Et j'entends déjà votre reproche indigné. Si vous saviez combien il est affreux de brûler, d'être dévoré par la soif d'amour et de dompter incessamment par la raison l'effervescence du sang, de vouloir embrasser vos genoux et répandre à vos pieds en sanglotant des aveux, des reproches, des prières, tout ce qui remplit l'âme, et au lieu de cela, d'armer sa parole et son regard d'une teinte froideur, de suivre un entretien tranquille, de vous regarder d'un œil réjoui. Mais, c'en est fait, Je ne suis plus de force à lutter contre moi-même. Je me livre à vous et je m'abandonne à ma destinée. Point de réponse. Alors de lui, autre missive. À sa seconde, à sa troisième lettre, point de réponse. Il va à un bal. Appelle est-il entrée qu'elle se trouve en sa rencontre? Quelle mine sévère! On ne le voit pas, on ne lui adresse point la parole. Ouf! Comme la voilà maintenant tout enveloppée d'une glace de janvier. Comme ses lèvres retiennent obstinément l'explosion de la colère. En vain, Onéguine dirige sur elle un regard pénétrant. Et où est le trouble, la pitié, où sont les marques des larmes? Rien, rien. Sur ce visage, il n'y a que les traces de l'indignation. Et peut-être aussi d'une peur secrète, que le mari ou le monde n'ait deviné une faiblesse passée et passagère. Tout ce qu'Onéguine seul pouvait savoir. Plus d'espérance. Il part. Et tout en maudissant sa folie, il s'y replonge et de nouveau renonce au monde. Là, dans son cabinet silencieux, il dut se rappeler le temps où la cruelle Chandra l'avait poursuivi à travers le bruit de la vie, l'avait atteint, pris au collet et enfermé dans un rubis obscur. De nouveau, il se mit à lire sans choix. Il lut Gibbon, Rousseau, Manzoni, Herder, Champfort, Madame de Staël, Bichat, Tissot. Il lut le sceptique Bell, il lut même les œuvres de Fontenelle, et aussi quelques-uns des nôtres, sans rien rejeter, ni almanach, ni revues, ni journaux, où l'on nous fait la leçon, où maintenant l'on me dit tant d'injures, où jadis je rencontrais tant de madrigaux. Eh, sempre bene, messieurs! Mais quoi? Ces lieux lisaient et ses pensées étaient loin. Des rêves, des désirs, des tristesses se pressaient sourdement au fond de son âme. Entre les lignes imprimées, les yeux de son esprit lisaient d'autres lignes qu'il absorbait tout entier. Ce que c'était, on le dirait difficilement. C'était ou de mystérieuses traditions d'une obscure antiquité, des rêves incohérents, des menaces, des prédictions, des bruits vagues, ou bien les vives et folles inventions d'un conte d'enfant, ou bien des lettres de jeune fille. Et peu à peu, il tombe dans une somnolence de sentiments et de pensées, tandis que l'imagination jette devant lui les cartes bigarrées de son pharaon. Tantôt il voit sur la neige fondante un adolescent étendu immobile, comme un voyageur endormi, et il entend les mots « Eh bien quoi, il est tué ?» Tantôt il voit des ennemis oubliés, des calomniateurs, des poltrons méchants, et les seins des jeunes traîtresses et le cercle des camarades indignes. Tantôt c'est une maison de village, et à la fenêtre est assise elle, toujours elle. Il s'habitua si bien à se perdre dans ses rêveries qu'il en devint presque fou ou poète, ce qui eût été bien drôle à voir. En effet, par je ne sais quelle force magnétique, mon élève à tête dure fut sur le point de saisir le mécanisme de la versification russe. Il ressemblait vraiment à un poète lorsque, assis seul au coin de la cheminée, il chantonnait « Benedetta, idol mio » et laissait tomber au feu sa pantoufle ou son journal. Les jours s'écoulaient rapidement. Dans les réchauffés, déjà l'hiver se dissolvait. Et il ne se fit pas poète, ne mourut pas, ne devint pas fou. Le printemps le ranime. Il quitte pour la première fois, par une tiède matinée, son appartement clos où il avait hiverné comme une marmotte. Ses doubles croisées, sa cheminée, ses chenets. Ils volent en traîneau le long de la Neva. Le soleil se joue sur les blocs bleuâtres de la glace qu'on en a tirés. Dans les rues, la neige, battue et rebattue, se fond en boueuses flaques d'eau. Où, à travers cette neige, se dirige Onéguine? Vous l'avez deviné. En effet, cet original incorrigible est arrivé chez elle, chez Tatiana. Il s'avance, semblable à un mort. Pas âme qui vive dans l'antichambre. Il entre dans le salon, plus loin, personne. Il ouvre encore une porte. Que voit-il? Quelle vision le frappe si violemment? La princesse est devant lui, seule, pâle, assise, vêtue négligemment, lisant une lettre et versant des larmes silencieuses, la joue appuyée sur sa main. Oh, qui n'aurait pas lu dans ces rapides instants ces souffrances muettes? Qui n'aurait reconnu dans la princesse la Tania, la pauvre Tania d'autrefois? Dans l'angoisse d'un regret insensé, Onéguine tombe à ses pieds. Elle frissonne et se tait. Elle le regarde sans surprise, sans colère. L'œil éteint d'Onéguine, son air suppliant, son reproche muet, elle a tout compris. La simple jeune fille, avec le cœur et les rêves d'autrefois, revit en elle. Elle ne le relève pas, et sans le quitter des yeux, elle ne retire pas sa main inanimée aux lèvres avides qui la pressent. À quoi rêve-t-elle? Un long silence se passe, puis elle lui dit doucement « C'est assez, levez-vous. Je dois m'expliquer avec vous franchement. Onéguine, vous rappelez-vous l'heure où le destin nous a mis face à face dans l'allée de notre jardin? Vous rappelez-vous avec quelle humilité j'écoutais votre leçon? C'est à présent mon tour. Onéguine, j'étais plus jeune alors, plus jolie peut-être, et je vous aimais. Et cependant, qu'ai-je trouvé dans votre cœur? Quel retour? Le dédain seul? L'amour d'une simple petite fille, n'est-ce pas, n'était pas nouveau pour vous? Maintenant encore, grand Dieu, tout mon sang se fige au souvenir de ce froid regard, de ce sermon. Mais je ne vous accuse pas. Vous avez agi généreusement à cette heure terrible. Vous aviez toute raison. Et je vous suis reconnaissante au fond de mon âme. Alors, n'est-ce pas, dans ce désert, loin de tout éclat, je ne vous plaisais point? Alors pourquoi donc me persécutez-vous aujourd'hui? Pourquoi cette poursuite incessante? Est-ce parce que je dois paraître dans le grand monde? Parce que je suis riche et titré? Parce que mon mari a été blessé dans des batailles et que la cour nous caresse pour ses services? Ou bien est-ce que parce que c'est ma honte qui serait à présent connue de tous et qu'elle vous donnerait dans la société un honneur infini? Je pleure. Si vous n'avez pas oublié votre Dania d'autrefois, vous devriez savoir que si j'en avais le choix, je préférerais vos mordantes épigrammes, vos paroles froides et sévères, à cette passion qui m'offense, à ces lettres et à ces larmes. Autrefois, vous aviez au moins de la pitié pour mes rêves enfantins, du respect pour mon âge. Et maintenant, qui vous amène à mes pieds? Quelle petitesse! Comment, avec votre cœur et votre esprit, êtes-vous devenu l'esclave d'un sentiment misérable? Quant à moi, Onéguine, toute cette splendeur, ce clinquant d'une triste vie, mes succès dans le tourbillon du monde, ma maison à la mode, mes soirées recherchées, mais qu'est-ce que tout cela? Je serais heureuse de donner à l'instant tous ces oripeaux, toute cette mascarade, cet éclat, ce bruit, cette fumée, pour un rayon de livre, pour un jardin sauvage, pour notre pauvre habitation, pour ces lieux où je vous ai vu la première fois, pour l'humble cimetière où maintenant une croix est ombrée à l'ombre des branches couvre ma pauvre nourrice. Et le bonheur était si possible, si proche. Mais mon sort est fixé. J'ai peut-être agi sans prudence. Ma mère me suppliait en pleurant. Toutes les destinées m'étaient égales. Je me mariais. Vous devez me laisser, je vous en prie. Je sais que votre cœur abrite la fierté, la droiture, l'honneur. Je vous aime, à quoi bon dissimuler. Mais je me suis donné à un autre. Je lui serai éternellement fidèle. » Elle sort à ces mots. Onéguine est restée immobile, comme frappée de la foudre. Par quel tourbillon d'émotions son cœur est agité. Mais un bruit inattendu d'éperon retentit, et le mari de Tatiana paraît. Lecteur, en cet instant cruel pour notre héros, nous allons l'abandonner pour longtemps, pour toujours. Nous avons assez erré avec lui par les mêmes chemins. Félicitons-nous d'être au rivage. Hurrah ! Oh, il y a longtemps que nous aurions dû faire ainsi, n'est-ce pas ? Qui que tu sois, ô mon lecteur, ami ou ennemi, je veux me séparer de toi cordialement. Adieu. Quoi que tu aies cherché dans ces strophes insouciantes, ou des souvenirs ravivés, ou du repos après tes fatigues, ou des tableaux animés, ou des mots piquants, ou tout bonnement des fautes de grammaire, Dieu veuille que tu trouves dans ce livre ne fût-ce qu'un grain de mil pour ton divertissement, pour ton cœur ou pour des querelles de journaux. Sur ce, séparons-nous et adieu. Adieu, toi aussi, mon bizarre camarade, et toi, mon idéal constant, et toi aussi, ma tâche, non grande certes, mais qui m'était chère. J'ai connu avec vous tout ce qui est enviable dans le sort d'un poète, l'oubli de la vie au milieu de ces tempêtes et la douce intimité des amis. Bien des jours se sont écoulés depuis que la jeune Tatiana et Onéguine, avec elle, me sont apparus pour la première fois comme dans un songe confus, alors qu'à travers un cristal magique, je ne distinguais pas encore avec clarté le lointain horizon du libre roman. Mais de ceux à qui, dans d'amicales réunions, j'ai lu les premières strophes, les unes ne sont plus, les autres sont loin, comme l'a dit jadis le poète Saadi. Onéguine s'est achevée sans eux, et celle qui m'a inspiré l'image chérie de Tatiana. Oh, le sort m'a beaucoup ôté. Heureux celui qui a pu quitter de bonne heure le festin de la vie, sans boire jusqu'à la lie la coupe pleine de vin. Celui qui n'a pas achevé son roman, et qui a su s'en séparer brusquement, comme moi de mon Onéguine. Fin du roman.